Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition du lundi 23 mars 2020. Eric Manilakidza à la présentation. Voici d'abord les titres. En Guinée, l'heure est à l'attente des résultats des législatives et du référendum. Au Malawi, la nouvelle élection présidentielle fixée au 2 juillet. L'Afrique enregistre 49 décès liés au nouveau coronavirus et 1479 cas confirmés. Nous ferons également le point sur la situation mondiale. Le président américain Donald Trump exprime des doutes sur les restrictions mises en place face au coronavirus et déplore leur impact sur l'économie. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. La Guinée, en attente des résultats des législatives et référendum de ce dimanche. Les opérations de vote ont été perturbées par des violences qui ont fait 4 morts. Aujourd'hui, la vie a repris son cours normal le lendemain d'un double scrutin boycotté par une partie de l'opposition politique guinéenne. On fait le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Première sortie ce lundi de la majorité présidentielle depuis la fermeture des bureaux de vote dimanche à 18h. Le RPG arc-en-ciel se félicite de l'engouement suscité par le double scrutin et remercie les forces de défense et de sécurité pour, selon lui, le professionnalisme avec lequel elles ont encadré la tenue du double scrutin. Une appréciation qui contraste avec le bilan de 10 morts donné par le Front National pour la défense de la Constitution. Ce collectif accuse les forces de l'ordre et de sécurité d'avoir commis ces crimes. Ce bilan de 10 morts est démenti par le gouvernement guinéen. Selon le ministre de la Sécurité, les affrontements entre militants ont causé la mort de 2 personnes à Conakry. La même source parle de 2 autres morts, l'un dans un accident et l'autre par arrêt cardiaque. Pour l'heure, aucune information sur les résultats du vote. Zakaria Camara pour VO Afrique, Conakry.
Lutte anti-djihadiste dans le Sahel. La Norvège, sollicitée avec d'autres pays pour participer sous commandement français à l'opération militaire Takuba au Mali, ne va pas envoyer de soldats à ce stade, faute de soutien politique suffisant, a annoncé aujourd'hui son gouvernement. Nous sommes préoccupés par l'aggravation de la situation au Sahel et comprenons bien le besoin d'établir le Task Force Takuba, a déclaré le ministre de la Défense, Frank Bakke-Jensen, dans un communiqué. Je vous le disais dans les titres, au Malawi, les électeurs vont retourner aux urnes le 2 juillet pour choisir leur président après que la Cour constitutionnelle a récemment annulé la victoire du chef de l'État, Peta Mutharika. Le point avec Abdourahmane Dia.
La commission électorale a indiqué ce lundi qu'à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle le 3 février annulant l'élection présidentielle et ordonnant un nouveau scrutin, la date du 2 juillet a été choisie pour ce nouveau rendez-vous électoral. La Cour, dans sa décision historique privant le président Mutharika d'un second mandat, a indiqué le 21 mai dernier que les résultats étaient frauduleux et que par conséquent, un nouveau scrutin devait se tenir dans les 150 jours suivant sa décision. Le président Mutharika a fait appel de la décision et son recours sera examiné le 15 avril par la Cour suprême. Il n'est toujours pas d'accord avec une proposition de loi requérant plus de 50% des voix pour remporter l'élection. Mais le président de la commission électorale a laissé entendre que si la loi n'était pas changée, le scrutin du 2 juillet prochain se tiendrait sur la base de celle existante et qui requiert juste une majorité simple des voix. Les deux principaux partis d'opposition ont décidé de s'allier pour ce scrutin. Le pays n'a enregistré aucun cas de coronavirus pour l'instant, mais si la maladie se propage, cela pourrait avoir un impact sur les élections.
Toujours dans cette partie de l'Afrique australe, les groupes islamistes armés qui sèment la terreur depuis 2 ans et demi dans l'extrême nord du Mozambique ont attaqué et pris le contrôle d'une partie de la ville de Mochimboya, d'Apraia, a annoncé lundi la police locale. Cette ville est située à quelques dizaines de kilomètres de gigantesques champs de gaz sous-marins. L'Afrique a pour l'instant enregistré 1479 cas et 49 décès liés au nouveau coronavirus. Le confinement a été mis en œuvre ce lundi à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo, alors que le Zimbabwe et le Nigeria ont chacun rapporté le premier décès. Les derniers développements avec Jacques Aristide.
Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec 200 millions d'habitants, enregistre une forte hausse du nombre de cas d'infection ces derniers jours. La première victime du Covid-19, un homme de 67 ans, est rentré au pays après avoir été hospitalisé en Angleterre. Son état de santé était aggravé, notamment par un diabète, et il était sous chimiothérapie. En Gambie, un imam de 70 ans, originaire du Bangladesh, est devenu la première personne à mourir du coronavirus dans le pays après avoir prêché dans plusieurs pays, dont le Sénégal. Au Zimbabwe, un des deux patients officiellement contaminés par le coronavirus, un homme âgé de 30 ans, est décédé dans la capitale Harare. D'après les autorités, l'homme est rentré le 9 mars dernier dans son pays via Johannesburg après un séjour à New York. En RD Congo, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula, a décrété sur toute l'étendue de la province 48 heures de confinement total dès ce lundi, après l'arrivée de deux cas suspects en provenance de Kinshasa. Des parlementaires congolais ont d'ailleurs demandé l'isolement et la mise en quarantaine de la capitale, Kinshasa, pour éviter la propagation du Covid-19. En Égypte, deux hauts gradés de l'armée sont décédés de la maladie en l'espace de 24 heures. Du Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, à l'île Maurice, au large de la côte Est, des gouvernements ont interdit des rassemblements publics et fermé des écoles, églises, mosquées, restaurants, bars et aéroports. Le nombre de cas en Afrique est bien inférieur à ceux des autres continents, mais les instances sanitaires mondiales et les ONG internationales se sont inquiétées du peu de tests réalisés sur le continent et du manque de structures sanitaires.
Cette pandémie frappe de plein fouet le monde entier avec plus de 341 000 cas d'infection dans 174 pays et territoires. L'épidémie a déjà fait près de 15 200 morts dans le monde, dont une nette majorité désormais en Europe. Le point sur la pandémie dans le monde avec Claire Morin-Gibord.
Avec déjà plus d'un milliard de personnes en confinement, le monde continue de se replier sur lui-même. L'Inde a pris des mesures de quarantaine ce lundi pour au moins 700 millions de personnes. En Europe, toujours épicentre de l'épidémie, le nombre de morts a été multiplié par plus de deux en trois jours en Espagne, qui a passé la barre des 2000 morts. Le nombre de morts et de nouveaux cas est en léger recul en Italie. Ce pays le plus touché après la Chine espère un ralentissement de la pandémie cette semaine. La Grèce, en confinement général depuis ce matin, lance un appel aux soignants bénévoles. Le secrétaire général de l'OCDE a averti que l'économie mondiale allait souffrir pour des années. Il est irréaliste de penser qu'elle va rebondir rapidement, dit-il. Alors qu'une récession d'au moins 5% est attendue en Allemagne, le gouvernement adopte des mesures de plusieurs centaines de milliards d'euros inédites depuis la Deuxième Guerre mondiale. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a présenté une série de mesures permettant aux entreprises d'accéder à de l'argent frais pour survivre aux graves bouleversements économiques. Le président Donald Trump a exprimé des doutes sur les restrictions mises en place face au coronavirus, déplorant leur impact sur l'économie et laissant entendre qu'il pourrait aller vers un assouplissement.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a exprimé lundi des doutes sur les restrictions mises en place face au coronavirus, déplorant leur impact sur l'économie et laissant entendre qu'il pourrait aller vers un assouplissement. « Nous ne pouvons laisser le remède être pire que le problème lui-même », a-t-il tweeté. À la fin de la période de 15 jours, « nous prendrons une décision sur la direction que nous voulons prendre », a-t-il ajouté sans autre précision. En revanche, le maire de New York, épicentre de l'épidémie de coronavirus aux États-Unis, a appelé lundi à généraliser à l'ensemble du pays les mesures de confinement coercitives adoptées dans les États les plus touchés et réclamé à nouveau une aide d'urgence au gouvernement fédéral. Il faut que ces mesures de confinement, fermant les activités non essentielles et obligeant les gens à rester chez eux, comprises New York et la Californie, soient partout, a déclaré le maire Bill de Blasio sur la chaîne américaine CNN. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est arrivé aujourd'hui en Afghanistan afin d'aider à régler la crise politique qui frappe ce pays, déjà en proie à la propagation du coronavirus et aux opérations des talibans qui menace le fragile processus de paix en cours. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nanit Talani.
Le Sénégal lance un fonds de 103 millions de dollars financé par son budget, les partenaires au développement et des Sénégalais de bonne volonté pour atténuer les effets du coronavirus sur l'économie, écrit l'agence Ecofin. Selon le ministre sénégalais de l'économie, du plan et de la coopération Amadou Ott, ce fonds permettra de soutenir la croissance et protéger les emplois en appuyant les secteurs affectés comme le tourisme, le transport aérien, l'industrie et les chaînes d'approvisionnement du commerce formel et informel. Le Cameroun autorise les marchandises en direction de N'Djamena d'entrer librement sur son territoire malgré la fermeture de ses frontières pour faire face à la pandémie de coronavirus, selon le site Al-Ouida. Cette mesure exceptionnelle fait suite à un accord entre les autorités tchadiennes et camerounaises afin de ne pas asphyxier le Tchad, pays enclavé qui importe une grande quantité de denrées alimentaires depuis le Cameroun. Pour terminer, le Nigeria financera 15% du projet du gazoduc à Jaokuta-Kaduna-Kano, long de 614 km, écrit la Tribune Afrique. Le Nigeria se servira de ses fonds de garantie souverain pour financer le dit gazoduc.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Le Japon admet la possibilité d'un report des Jeux Olympiques.
Oui, le monde peut toujours compter sur le Japon pour accueillir les Jeux cet été, a déclaré le premier ministre japonais Shinzo Abe devant le Parlement nippon. Il a toutefois admis que si cela devenait difficile, en tenant compte en priorité des athlètes, la décision d'un report pourrait devenir inévitable. Les Jeux Olympiques doivent normalement se tenir à Tokyo du 24 juillet au 9 août et les Paralympiques du 25 août au 6 septembre. La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, s'est aussi rangée derrière les propos de M. Abe et du Comité international olympique, acceptant qu'un report fasse partie des scénarios qui seront discutés durant les quatre prochaines semaines. Cette discussion n'envisage toutefois pas l'annulation pure et simple de l'événement, exclu aussi par M. Abe et le Comité olympique.
La Confédération africaine de handball suspend toutes ses activités.
Oui, cette suspension intervient à quelques jours de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe qui devait avoir lieu en Algérie. Aremu Mansourou, président de la Confédération africaine de handball.
Les informations que nous avons reçues de l'Algérie étaient assez fortes et inquiétantes, au point où nous avons été obligés au niveau de l'exécutif de prendre la décision de reporter cet événement en attendant de voir plus clair. L'épidémie devient très sévère. Nous avons donc mis en veilleuse toutes nos compétitions statutaires.
Aremu Mansourou, président de la Confédération africaine de handball, au micro d'Élisée Nkpatine, notre correspondant au Bénin. Monsieur Mansourou a aussi décidé de suspendre sa visite de travail et d'inspection des infrastructures sportives au Cameroun dans le cadre de la 24e Cannes senior dames de handball.
Et en football, on parle de ces décès tragiques de deux joueurs du club nigérien d'Enugu Rangers.
Oui, les Nigériens George Ifani et Emmanuel Ogbu sont morts dans un accident de la circulation alors qu'ils se rendaient à Lagos après la suspension du championnat pour cause du coronavirus. D'après les premières images, la voiture des deux joueurs d'Enugu Rangers a heurté un camion garé vers Lagos sur la route express Bénin Agbor. Un troisième passager qui était aussi à bord a péri dans l'accident. Le plus connu des trois passagers, Ifani George, 26 ans, était l'attaquant des Rangers depuis 2017 après un passage à Enimba. Il a joué en équipe nationale A' avec les Super Eagles locaux à deux reprises.
Et on termine avec le football espagnol qui est à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre.
Tout le football espagnol amateur et professionnel, initialement arrêté pour deux semaines, a été suspendu jusqu'à l'obtention du feu vert des autorités. Jusqu'à présent, les deux championnats professionnels espagnols, la Liga Santander, première division, et la Liga Smartbank, deuxième division, et tout le football amateur, étaient suspendus pour deux semaines depuis le 12 mars. Atteint du Covid-19, l'ancien président du Real Madrid, Lorenzo Sanz, est mort samedi à l'âge de 76 ans. Il a dirigé le club merengue de 1995 à 2000.
C'était l'espoir de Yakuba Ouedraogo. Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Magnilakiza. À présent, les dossiers du jour. Au Sénégal, le coronavirus continue sa progression avec un total de 67 cas confirmés, dont 5 guéris au 22 mars 2020. Si des mesures sanitaires et administratives très strictes sont prises par les autorités, certaines couches vulnérables de la population, comme les enfants talibés et les prisonniers, sont dans des conditions délicates. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
À Dakar, l'inquiétude grandit de plus en plus depuis l'apparition de cas issus de la contamination communautaire. Et pour beaucoup de Sénégalais, il est essentiel de protéger les personnes les plus vulnérables. Plusieurs associations de jeunes se sont ainsi lancées dans une campagne de prévention au profit de ces personnes qui vivent dans des conditions difficiles. Pour Mirafal, il s'agit d'une solidarité spontanée que les citoyens ont eue.
Ce sont les personnes, les populations en tant que telles qui ont pris des dispositions pour aider les talibés, les personnes démunies et autres. Tout le monde est exposé en ce moment, tout le monde a peur, surtout eux, on a peur pour eux. Mais j'ai pas vu l'État prendre des dispositions sur ça, sincèrement.
Pour éviter que des milliers d'enfants continuent de mendier chaque jour dans les rues de Dakar, l'équipe aidant les talibés est en première ligne. Mohamed Dien, président de cette association de bénévoles, explique que ses membres sillonnent les daras où logent les talibés pour distribuer des kits sanitaires et convaincre les maîtres coraniques de confiner les enfants pendant quelques semaines.
On a instauré une activité qui s'appelle un projet du nom de Zéro Mendicité, qui va permettre à l'ensemble des daras avec lesquels on travaille de ne pas aller mendier. Donc on est allé déjà faire le suivi de ce projet. En plus de ça, les sensibiliser les enfants et les seringues de Dara pour leur dire qu'aujourd'hui la situation est tellement délicate qu'il ne faudrait pas laisser les enfants sortir du Dara. Donc en sus, on a aussi amené là-bas des kits qui vont leur permettre de lutter contre le coronavirus. Par exemple, on leur a acheté des eaux de Javel, tout ce qui est Omon et autres, pour leur permettre vraiment d'être dans de très bonnes conditions et de lutter contre le coronavirus.
Du côté des prisons également, l'inquiétude est grande. Sous couvert de l'anonymat, cet ex-détenu, récemment élargi de la prison de Rebos à Dakar, affirme qu'il risque d'y avoir une catastrophe humanitaire si le coronavirus atteint les centres de détention.
Je suis sorti il y a quelques jours et je peux vous dire que les prisonniers sont particulièrement préoccupés par cette situation. Même si les contacts avec l'extérieur sont limités avec l'arrêt des visites, personne n'est à l'abri dans les prisons, surtout à Rebus qui est surpeuplée. Si une personne qui a le coronavirus est incarcérée là-bas, la situation va rapidement devenir incontrôlable. Tout le monde risque d'être contaminé. Et avec la prise en charge défaillante dans les prisons, ça va devenir un désastre.
Pour parer à d'éventuels cas de contamination dans les prisons, l'administration pénitentiaire a déjà pris la décision de suspendre les visites pour 15 jours. Les détenus pourront toutefois téléphoner gratuitement à leurs proches et voir leurs avocats. Cependant, cette situation dans les prisons risque d'être aggravée par la suspension des audiences à cause du coronavirus. D'ailleurs, la section sénégalaise d'Amnesty International souligne que les lieux de détention vont être saturés si le système judiciaire reste longtemps paralysé par le COVID-19. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Bénin, les autorités ont pris des mesures pour contenir la propagation du COVID-19, des mesures jugées insuffisantes pour certains qui estiment qu'il fallait fermer les écoles, les marchés, les bars et les restaurants. Le ministère de la Santé rassure et appelle les populations au calme. Le point avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Depuis le samedi 21 mars, les églises, les mosquées et autres lieux de prière sont fermés et ce jusqu'au 5 avril prochain. C'est l'une des mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation de la pandémie. Mais pourquoi fermer ces lieux de prière et laisser les écoles où les enfants sont le plus exposés? Les universités où plus de 1000 étudiants se retrouvent dans une salle. Sur la question, le ministre de la Santé, Benjamin Rumpati, pense que les élèves sont plus en sécurité à l'école qu'à la maison, livrés à eux-mêmes.
Ce qu'il nous faut faire au niveau de nos écoles, c'est de nous assurer que nos enfants puissent effectivement respecter ces règles d'hygiène, notamment le lavage systématique des mains à l'eau et au savon. Et nos enfants savent aussi très bien véhiculer le message qui seront les meilleurs vecteurs pour passer la bonne information sur le lavage des mains.
Face à la montée des contestations sur la toile pour fustiger ces mesures jugées insuffisantes, quelques acteurs politiques se sont lancés dans la sensibilisation et au respect des mesures prises par le gouvernement.
Notre foi en notre Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, ne doit pas nous conduire à manquer de bon sens, d'intelligence, de responsabilité face au fléau qu'il faut prendre très au sérieux.
Donc, prenez conscience, le mal existe, la pandémie existe. Attention à nous.
Sauvons nos têtes, sauvons nos vies, c'est de respecter les consignes données.
À l'annonce du deuxième cas de contamination, les produits comme les désinfectants, les masques ont triplé de prix d'achat. Dans les pharmacies, c'est déjà la rupture de stock dans plusieurs endroits. Quelques clients rencontrés se plaignent de ce que les produits censés aider à prévenir le mal soient en manque ou vendus à des prix exorbitants.
Le gel, je veux 7, mais ils m'ont dit que je peux avoir que 1. Et en ce qui concerne les tâches nées, ils m'ont dit que je peux avoir 5.
Vous pensez à ceux qui n'ont pas assez de moyens pour qu'ils puissent quand même s'en procurer, donc permettre aux gens de l'avoir facilement.
Mais pour le pharmacien qui requiert l'anonymat, la spéculation ne dépend pas des pharmacies, mais des fournisseurs qui se servent de la pandémie pour livrer ses produits au-delà du prix habituel.
En fait, nos fournisseurs, lorsque nous nous rapprochons de quoi avoir les produits, ils nous informent que le prix a augmenté. Nous, au vu du fait que nous devons satisfaire nos clients, nous sommes obligés de prendre à ces prix très élevés et forcément c'est le consommateur final qui se retrouve à payer le surplus.
Les mesures de restriction ont atteint aussi les prisons jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement suspend les visites aux prisonniers. Gilles Yekpe, le directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin.
Les dispositions qui sont prises consistent à interdire ou à suspendre les visites aux détenus, histoire de maîtriser, de contenir ce mal.
Les prisonniers qui acceptent difficilement la nouvelle règle ont quand même des doléances. La plus importante reste l'achat des produits désinfectants qui, selon leur porte-parole, pourraient leur coûter cher.
Il y a un petit problème qui va se poser, parce que nous les détenus, on se connaît. Les produits qu'on va commencer par acheter, les articles qu'on va commencer par acheter, que ça ne coûte pas trop cher.
Qu'en est-il des deux cas de contamination enregistrés jusqu'à présent au Bénin? Pour le ministre de la Santé, tout est sous contrôle et le gouvernement a très trop pris la mesure de la situation.
Le gouvernement a commencé par acquérir déjà les équipements et consommables nécessaires pour la prise en charge optimale des patients et qu'il a déjà mobilisé une somme de 10 milliards de francs CFA destinée à la riposte. Depuis l'enregistrement du premier cas, nous avons démarré le traitement à la chloroquine dans le cadre d'un protocole de recherche sur consentement éclairé et écrit des patients et des sujets contacts.
Les mesures prises par le gouvernement ne semblent pas convaincre certains qui ont décidé de prendre eux-mêmes leurs responsabilités, comme garder leurs enfants à la maison et s'auto-isoler en attendant que la crise sanitaire que traverse le monde entier ne passe. De Cotonou, Jeanette Fleur, attendez pour VOA Afrique.
La question de la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus est bien sûr présente dans le débat public politique américaine, aussi bien au niveau de l'administration que chez les candidats démocrates engagés dans la course à la présidentielle de novembre prochain. Quelle analyse faire de cette gestion? Arzuma Compaoré a tendu le micro à René Lake, consultant et analyste politique basé ici à Washington.
Au plan politique, bah écoutez, l'impact il est énorme. Les candidats aux primaires, notamment les Américains, les démocrates Bernie Sanders et Joe Biden ne sont plus en mesure d'organiser des meetings politiques, ils n'ont plus de contact physique avec leurs militants, ils ne peuvent plus prendre de selfies, ils ne peuvent plus organiser de fundraising pour mobiliser des fonds de manière directe, de manière physique, les dîners qu'ils organisaient, etc. Tout cela n'est plus possible, tout se fait maintenant en ligne. La campagne elle-même, la physionomie de la campagne a complètement changé au point où un certain nombre de leaders démocrates appellent Bernie Sanders, qui n'a maintenant pratiquement plus de chances de remporter cette primaire, lui suggère de tout simplement se retirer et abandonner la course.
Et quel impact pour la campagne de Trump?
Il y a énormément de voix critiques par rapport à la manière dont l'État fédéral, sous sa direction, gère cette crise. Tous les jours, il y a un certain nombre de gouverneurs qui interviennent pour dire qu'il manque que le leadership au niveau fédéral est absent, puisque le président lui-même invite plutôt les gouverneurs des États à prendre un certain nombre de décisions, notamment des décisions qui pourraient être relativement impopulaires. Donc, il y a une crise à ce niveau-là. En plus de ça, maintenant, il y a la crise de confiance, puisque, bon, il faut dire qu'un certain nombre d'informations qui ont été communiquées au public n'étaient pas des informations véridiques. Un certain nombre de faits n'étaient pas avérés. Il y avait une tendance un peu à minimiser un peu le problème au niveau de la Maison-Blanche. Donc tout cela se retourne un peu contre Donald Trump. Mais il faut dire que le jeu reste très partisan, parce que ce que je viens de vous dire, c'est vrai que certains républicains le disent, mais c'est essentiellement les démocrates qui le disent. Parce que du côté des républicains, les sondages montrent que plus de 80% des républicains sont tout à fait satisfaits du leadership de Donald Trump et la manière dont il gère cette crise.
René Lake, consultant et analyste politique à Washington.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Depuis le mois de décembre, l'art et la musique Niaoua sont désormais inscrits au patrimoine culturel de l'humanité de l'UNESCO. Originaire d'Afrique subsaharienne, cet art s'est installé progressivement au Maghreb et au Maroc avant de s'exporter aujourd'hui dans le monde entier. Le reportage à Casablanca de Sabrina Akil.
Quand on passe à la musique Gnawa, on évoque très vite le Gembri, cet instrument à cordes pincées des peuples Gnawa. Depuis toujours, la musique et l'art tagnawit se transmettent de génération en génération. Mahallem Hassan Boussou, fils de feu Mahallem Hamida Boussou, fait partie de la longue tradition des Gnawis. Pour lui, cette reconnaissance au patrimoine de l'UNESCO est une très bonne chose.
C'est une grande nouvelle pour nous. Déjà, le Gnawa, c'est arrivé à ce niveau international, mais avec cette reconnaissance, c'est officiellement, c'est une grande ouverture sur le monde de représenter l'art et la culture Gnawa. C'est une grande fierté pour nous, les Gnawa, et pour le Maroc en général.
Une consécration qui intervient grâce au travail de longue haleine de plusieurs personnes, dont Neila Tazi, qui a fondé il y a 22 ans le festival Gnawa, musique du monde des Saouira.
L'inscription de l'art Gnawa au patrimoine UNESCO est un rêve que nous avons nourri très tôt, après la création du festival en 1998, parce que nous avions très vite pris conscience, d'abord de l'importance de cette culture au-delà de ce que nous imaginions, de sa popularité, parce que dès le départ, le festival a fédéré des centaines de milliers de gens, de toutes générations, de tous horizons, et on a compris que c'était une expression culturelle, populaire, qui était une forme de ciment entre, au-delà des Marocains, sur le plan intergénérationnel, mais également au niveau de la région et même au niveau, une belle passerelle sur le plan du dialogue interculturel.
Ce dialogue interculturel, c'est justement l'un des moteurs de Khalil Mounji, musicien Gnawa et fondateur de l'association Gnawa Culture. Son objectif, développer, enrichir et préserver le patrimoine culturel marocain Gnawi. Pour cela, il a notamment créé l'application Play Gembri, qui permet de s'exercer virtuellement au célèbre instrument des Gnawa. La tradition Gnawa, perpétuée par les descendants d'anciens esclaves venus d'Afrique de l'Ouest, remonte au XVIe siècle. Aujourd'hui, artistes marocains et subsahariens se retrouvent pour partager cette histoire commune.
Les musiciens qui sont avec moi aujourd'hui, ou la diaspora subsaharienne ici au Maroc, sont aussi heureux de cette reconnaissance parce qu'ils savent que ça sera bénéfique et que pour le Maroc, pour le Gnawa, mais aussi pour l'Afrique.
Méconnue, voire marginalisée, la confrérie Gnawa est désormais reconnue à sa juste valeur par l'UNESCO. Un encouragement pour les Ma'allem, ces maîtres de la musique Gnawa, à former la relève et faire vivre ce patrimoine historique.
la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Runaniragahima avec Michel Joseph et Joselle Morissa. À la présentation, Eric Manirakiza. Merci par le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Excellente soirée à tous. Au revoir.
Avec vous.